Vous vous souvenez que l'an dernier, nous avions abordé un petit commentaire de la prière « Viens Esprit Créateur » en faisant allusion au livre du Père Cantalamessa sur ce sujet. Et aujourd'hui, c'est un enseignement sur les sept dons de l'Esprit Saint. Dans notre réflexion ce matin, ouvert aux sept dons de l'Esprit, nous allons commencer par une citation de Jean-Paul II qui, en 1991, disait ceci au cours d'une audience générale. « La théologie du Moyen-Âge des sept dons, bien qu'elle ne présente pas un caractère d'absolu dogmatique et ne prétende donc pas indiquer un nombre limitatif des dons, ni des catégories spécifiques selon lesquelles ils peuvent être distribués. » Cette théologie a eu encore une grande utilité, aussi bien pour la compréhension de la multiplicité des dons eux-mêmes dans le Christ et chez les saints, que comme commencement d'une bonne ordonnance de la vie chrétienne. Donc, depuis le Moyen-Âge, on a l'habitude de parler des sept dons du Saint-Esprit. Il faut bien les distinguer des dons charismatiques. On les appelle plutôt des dons sanctifiants, c'est-à-dire qu'ils sont accordés à chacun de nous. Ils sont tous accordés à chacun de nous, tandis que les charismes, le Seigneur donne tel charisme à telle personne pour la communauté, mais voilà, c'est Dieu, c'est lui qui distribue, tandis que les sept dons du Saint-Esprit sont comme une sorte d'organisme spirituel qui nous est conféré au baptême, est vraiment déployé à la confirmation pour que le Saint-Esprit puisse agir en nous tout au long de nos journées, dans toute notre vie. Il faut évidemment être conscient que ces sept dons n'expriment pas de façon totale toute la diversité de l'action de l'Esprit-Saint. Mais en même temps, il faut aussi quand même accepter de découvrir toutes les richesses de cette action du Saint-Esprit telle que la tradition l'a formalisée par l'ensemble de ces sept perspectives, les sept dons. Et pour qui a déjà abordé à l'exercice des charismes, c'est intéressant de constater l'articulation entre les dons sanctifiants d'une part et puis la plupart des charismes d'autre part. Si bien que vous trouverez à la fin de chaque paragraphe une petite mention des charismes qui sont greffés sur chaque don sanctifiant. C'est important comme perspective parce que, au fond, c'est comme si l'Esprit-Saint utilisait plus spécialement un don sanctifiant tourné vers la sanctification de la personne, donc, pour y greffer un don charismatique ou plusieurs dons charismatiques qui, eux, sont tournés vers l'édification de la communauté. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais dans chaque don de l'Esprit-Saint peuvent être greffés des charismes. Autant les dons de l'Esprit-Saint sont pour notre sanctification personnelle, autant les charismes sont pour la sanctification de l'Église. Mais ils s'articulent l'un sur l'autre. Et c'est peut-être une explication pourquoi, dans le renouveau charismatique, on s'aperçoit, 50 ans après les débuts, qu'on a dérapé dans certains cas et que beaucoup de fondateurs ont largement dérapé et même dévié gravement. Peut-être bien qu'on s'est laissé gagner on s'est laissé griser par l'exercice des charismes sans véritablement les enraciner suffisamment profondément dans l'accueil de l'Esprit-Saint par les sept dons qui est l'organisme principal que nous avons tous. Et donc un charisme qui malheureusement finit par être entaché d'exercice de volonté de puissance, par exemple, comme tous les grands charismes publics, je pense au charisme de guérison, au charisme de prédication, au charisme, tous ceux qui permettent quelquefois d'être en avant devant tout le monde, ça a pu provoquer, parce que ce n'était pas assez enraciné, des dérapages au niveau de la volonté de puissance, puis après ça, une débandade. Je n'en dis pas plus long, mais vous savez comme moi quand même que Il faut que nous regardions ça. J'avais dit ça l'an dernier au mois de mai à la réunion nationale des délégués diocésains à renouveau charismatique en présence de Mgr Lussault. J'avais dit qu'il faudrait qu'on regarde quand même la question de l'utilisation publique des charismes de puissance et le manque d'enracinement que l'on peut constater puisqu'il y a eu de tels dérapages. Voilà, je ferme cette parenthèse pour faire comprendre peut-être comment la réflexion qu'on va faire ce matin est plus fondamentale qu'il n'y paraît. Alors je voudrais partir de ce que dit le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Vous avez cette citation sur vos feuilles. C'est un carme, il est décédé en 1967, il est fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie, auteur d'ouvrages sur la vie spirituelle, comme « Je veux voir Dieu » par exemple, « Je suis fille de l'Église ». Et il nous aide à comprendre comment Dieu agit. Donc on va regarder cette citation. « Les dons du Saint-Esprit sont des capacités réceptives. Bien souvent, dit-il, j'utilise un mot qui est presque irrespectueux, mais qui traduit bien, ce sont des entonnoirs. » Excusez de la comparaison. « Ce sont des entonnoirs. Un entonnoir est capable de recevoir du liquide, mais l'entonnoir tout seul n'est qu'un entonnoir. » Ça va jusqu'à présent ? On peut dire aussi, selon saint Jean de la Croix, c'est une antenne capable de recevoir une influence de Dieu qui vient exercer en nous sur le plan psychologique, qui vient s'exercer en nous sur le plan psychologique et psychique. L'influence de Dieu intervient sur le plan psychique, sur la sensibilité et l'imagination, pour donner des grâces de recueillement, sur l'intelligence, pour l'éclairer, lui donner des lumières et suppléer à l'obscurité de la foi, sur la volonté aussi, pour la fortifier et l'aider à faire des actes de charité. Les dons du Saint-Esprit étant des passivités, saint Thomas lui-même fait remarquer que le mot « don » est mal choisi. Le mot « don » est mal choisi. On dit « j'ai les dons du Saint-Esprit et avec ça je peux marcher ». Vous pouvez marcher comme vous pouvez boire quand vous avez un entonnoir, à condition qu'on verse quelque chose dedans. L'action de Dieu est complémentaire du don et nécessaire à son activité. Or, cette action de Dieu est gratuite. On peut donc avoir des entonnoirs ou des dons très développés sans que Dieu agisse. On peut avoir des dons très peu développés et Dieu peut agir en trombe. À ce moment-là, ça peut créer quelques secousses d'ailleurs. La liberté de Dieu intervient dans l'utilisation des dons. Donc vous voyez l'articulation des deux. Un organisme spirituel récepteur et puis l'action de Dieu par le Saint-Esprit. Si Dieu n'avait pas voulu que nous marchions, il ne nous aurait pas donné des jambes. Il en est de même ici, s'il nous a donné des passivités, c'est qu'il veut les combler. Et d'ailleurs, la vie pratique, l'expérience des âmes, montre que cette action de Dieu par les dons du Saint-Esprit est très fréquente. Pourquoi n'arrive-t-elle pas à être très habituelle ? Parce que la plupart des gens n'y croient pas. Et puis, ils ne se disposent pas à cette action de Dieu. Ils ne répondent pas. Ils ne donnent pas à Dieu leur coopération. Quelle distinction peut-on faire entre les dons ? Personnellement, il me semble qu'on exagère un peu et qu'on sépare trop les dons. Parce que, après tout, il n'y a qu'un don, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a qu'une réceptivité, c'est la réceptivité de la charité. La charité est faite pour donner et pour recevoir. Il y a un fondement de réceptivité mystique chez tous les humains, même chez les païens. Mais évidemment, la grâce baptismale greffe sur cela une réceptivité spéciale pour une influence de Dieu qu'on ne trouve pas, je pense, au moins habituellement chez les païens. Chez nous, en raison de ce don du Saint-Esprit qui est lié à notre organisme baptismal surnaturel, cette action de Dieu peut devenir ordinaire et habituelle. L'action de Dieu est diversifiée. À un moment, elle ne produira que du recueillement. À d'autres moments, elle produira une lumière. À d'autres moments, elle donnera une force. Mais chacune de ces influences de Dieu est cependant un aliment complet. Très important ceci. Un aliment complet. Ces influences sont connexes. Elles sont pour ainsi dire un bloc. Et elles apparaissent sous telle ou telle forme, selon tel ou tel aspect. Pour les dons du Saint-Esprit, je crois donc qu'il ne faut pas trop insister sur leur division. Voilà, cette longue citation est tirée de Cahiers de retraite dans l'intimité du Christ. Ce n'est pas accessible en vente, je pense. Ça date de 1964. Mais vous avez des tas de passages similaires dans les œuvres du Père Marie-Eugène. Alors, les sept dons, quelles sont leurs nomenclatures, si l'on peut dire ? Ils s'enracinent dans une citation d'Isaïe, chapitre 11, verset 1 et suivant. Vous n'aurez qu'à regarder dans vos Bibles, mais vous connaissez. Hein. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Hein, et voilà. Après ça, on nous parle de cet esprit de crainte, cet esprit de conseil, esprit de force, esprit de sagesse, qui reposera sur le Messie. En Isaïe chapitre 11, verset 1. Donc c'est un esprit septiforme. Et c'est à partir de là que la théologie médiévale a tiré cette nomenclature des sept dons du Saint-Esprit, qui sont donc des facultés spirituelles qui nous rendent capables d'accueillir et de répondre rapidement à l'action de l'Esprit-Saint, à ses impulsions, à ses inspirations. Nous ne pouvons pas les rendre actifs par nous-mêmes. Très important ça. Nous ne pouvons pas les rendre actifs par nous-mêmes. Nous devons attendre que le Saint-Esprit prenne l'initiative, d'où l'importance de l'appeler, de prier en lui disant « Saint-Esprit, viens, agis ». Le plus que nous puissions faire, c'est de demander au Saint-Esprit de les mettre en activité. Une fois en activité, les dons fonctionnent aussi longtemps que le Saint-Esprit continue à les soutenir par son intervention directe et son appui, et il cesse quand il retire son impulsion. Et du commencement à la fin, l'action ou la manifestation d'un don est entièrement due à l'action et à la gracieuse initiative de l'Esprit. On va donc regarder l'action de l'Esprit-Saint pour sanctifier le chrétien, exprimé à travers l'ensemble de ce septenaire. Et là, je vous donne la liste des sept dons. Je ne l'ai pas mise avec des petits tirets parce que ça aurait allongé pour les photocopies. La crainte de Dieu, c'est-à-dire être à ma place de créature. La piété, c'est-à-dire mieux vivre la communion avec le Père, avec mes frères. La science, c'est-à-dire mieux voir la réalité selon Dieu. La force, être énergique dans les difficultés, le conseil, avoir une direction pour agir, l'intelligence, pénétrer la vérité divine, la sagesse, goûter la présence de Dieu. Donc on va passer en revue, l'un après l'autre, ces sept aspects de l'action de l'Esprit-Saint. Quand il agit en nous, il se présente sous tel ou telle forme. Ça vous permettra de mieux le repérer, parce que je suis bien évidemment convaincu que vous avez expérimenté tout cela déjà. Mais comme on n'a pas suffisamment en tête cette perspective des sept dons de l'Esprit-Saint, on n'y fait pas suffisamment attention. On va commencer par le premier aspect qui est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire que l'Esprit-Saint produit en moi cette humilité qui me permet d'être à ma place de créature. À ma place de créature. L'amour de Dieu est exigeant, vous savez bien. Il ne se contente pas de la moitié. Il veut tout. Il nous dit par exemple, « Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime », Isaïe chapitre 43. Malheureusement, lorsque nous parlons de crainte de Dieu, nous pensons à la peur, mais ce n'est pas cela. Il est important de distinguer la crainte qui se traduit par l'adoration de Dieu, et la peur religieuse, le tremendus, comme disent les spécialistes des religions, la crainte de ce qui est divin, éprouvé devant des éléments de la nature d'ailleurs, ou devant des personnes hostiles. Ici, nous ne parlons pas de peur religieuse, nous parlons d'adoration de Dieu. La crainte de Dieu ne paralyse pas comme la peur, mais quand elle est bien en place, elle guérit du cancer de l'orgueil et de la suffisance. Je peux comprendre alors, comme Catherine de Sienne, que Dieu me dise « Je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas ». Et que de façon complémentaire, il me déclare aussi « Tu as du prix à mes yeux, et moi, je t'aime ». Donc la crainte comme don de l'esprit nous établit dans la perception de notre propre néant. Et donc aussi de notre impuissance pour tout bien, de la grande sainteté de Dieu et du refus de tout ce qui l'offense. J'acquiers la conscience d'être suspendu à une bonté gratuite que je suis toujours capable d'offenser, toujours capable de renier. La crainte d'offenser Dieu. Donc c'est cet aspect que nous voyons maintenant, nous continuons à creuser, la crainte d'offenser la sainteté de Dieu, puisque le Seigneur nous dit « Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint ». L'Esprit Saint met en nous la crainte de pécher, la crainte de ternir la sainteté de Dieu et la sainteté de la communauté chrétienne aussi. Il nous pousse à combattre l'orgueil pour trouver l'humilité. Il nous engage sur la voie de la conversion. Cette crainte n'étouffe pas l'amour. Elle enlève les obstacles qui l'arrêteraient dans son développement. Très important ça. Cette crainte va avec l'amour de Dieu. Elle n'arrête pas l'amour, mais elle enlève les obstacles qui pourraient arrêter l'amour dans son développement. Tandis qu'une sorte de familiarité déplacée avec Dieu, copain-copain, risque trop souvent de tenir la place de cette disposition fondamentale. Alors à ce moment-là, la crainte de Dieu est étouffée sous la complaisance pour soi-même. Cette crainte de Dieu, c'est aussi, dans l'un de ses aspects, une entrée dans le combat spirituel. Paul, dans la lettre aux Philippiens, dit « Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut ». Et la crainte de Dieu tempère nos instincts, tempère nos affections, nos pensées. Elle peut nous entraîner à des résolutions hardies et fermes. Elle supprime, elle coupe, elle retranche tout ce qui peut devenir une occasion de fléchissement moral. L'Esprit Saint, sous cet aspect de crainte de Dieu, nous fait entrer dans le combat spirituel de trois façons. Par un vif sentiment de la sainteté infinie de Dieu, et donc un refus des moindres fautes qui l'offensent, par la contrition des péchés commis et le désir sincère de les réparer, et par le soin vigilant à éviter les occasions de péché. Donc vous voyez, ça a quelque chose à voir avec le sacrement de réconciliation. Quelqu'un qui est fidèle à la confession, au sacrement de réconciliation, vraiment fidèle, régulièrement, c'est quelqu'un chez qui le don de crainte fait un profond travail pour une adoration en vérité et une purification profonde. L'Esprit Saint dispose l'homme intérieur à se soumettre à la volonté de Dieu par ce désir ardent d'éviter le péché, par la garde du cœur pour maintenir la pureté d'intention, par la délicatesse de la conscience, par la confiance filiale, fruit de l'humilité. Donc on comprend que la première des béatitudes, c'est « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux ». On comprend que dans l'Apocalypse, par exemple, Jésus dit à l'une des églises « Mais tu ne te rends pas compte que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu ?» C'est qu'il la prépare par le don de crainte à l'accueil de son intimité. « J'entrerai chez toi pour souper, moi près de toi, toi près de moi. » Apocalypse 3:20. Donc cette pauvreté spirituelle est nécessaire comme condition libératrice du moi, livrant la personne aux opérations transformantes de l'Esprit Saint. C'est vraiment l'humus de toute vie spirituelle. Humilité, humus, c'est le même mot. La base sur laquelle Dieu va pouvoir construire. Donc vous voyez, il faut demander vraiment au Saint-Esprit d'agir en nous par ce don, sous cet aspect de crainte de Dieu, de développer en nous la crainte de Dieu. Ça va ? Un deuxième aspect, la piété. Comment est-ce que l'Esprit-Saint agit en nous par le don de piété ? La piété, c'est-à-dire mieux vivre la communion, ce qu'on pourrait appeler la piété filiale vis-à-vis de Dieu, et puis la piété fraternelle, l'amour fraternel vis-à-vis de nos frères. Mieux vivre la communion avec Dieu et la communion avec nos frères. Cette piété, c'est une confiance filiale envers le Père. Dans la lettre aux Romains, Paul nous dit « Vous avez reçu un esprit de fils adoptif, qui nous fait nous écrier « Abba ». Et encore, Jésus dira à propos de son propre cœur à lui, « Je fais toujours ce qui lui plaît » en parlant du Père. Donc vous voyez, on a ici l'expression de cet amour filial, de cette piété filiale dans le cœur de Jésus, et le Saint-Esprit a profondément développé cela en lui. L'Esprit-Saint, par la piété, nous porte à témoigner à Dieu une affection toute filiale, en le considérant comme le meilleur des pères. Jean-Paul II dit « L'Esprit-Saint oriente le cœur de l'homme vers Dieu par des sentiments, des pensées, des prières qui expriment la filiation à l'égard du Père. » Thérèse de Lisieux a manifesté de façon lumineuse comment la piété était le cœur même de la sainteté. Et elle dit « Elle consiste dans une disposition du cœur qui nous rend petits et humbles entre les bras de Dieu et conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace. » En sa bonté de Père. Vous voyez que ça s'articule sur le don de crainte de Dieu. On est tout proche, mais cette fois-ci, on le vit d'une façon confiante, filiale. Cet amour filial envers le Père s'étend à tout ce que le Père a réalisé en son Fils, en particulier à l'Église. L'Esprit-Saint fait pénétrer et assimiler le mystère du Dieu avec nous, spécialement par l'union avec le Christ, Verbe incarné. Des relations filiales avec la Vierge Marie, la compagnie des anges et des saints dans le ciel, la communion avec l'Église, dit Jean-Paul II. Donc, le cœur qui est pieux, en ce sens, accourt avec une affection filiale et fraternelle pour faire plaisir à Dieu et faire plaisir au prochain. Il écoute Dieu, il vit à l'intérieur, amour de la Bible, de la liturgie, du silence, mais aussi il se dévoue avec douceur, délicatesse, compassion, compréhension fraternelle des autres. Et là, on voit que ça rejoint le développement des vertus. Ce don de piété filiale pourrait s'exprimer encore en disant qu'il nous aide à être proches de nos frères. Comme il est dit dans les Actes, la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Cette piété est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour combattre l'égoïsme, pour rendre notre cœur tendre et dévoué. Et le Saint-Esprit nous libère ainsi de la dureté de cœur qui nous rend indifférents à nos frères. Il développe en nous la bienveillance, la compassion, le dévouement, la tendresse envers tous les êtres, ce qui est éminemment franciscain. Tous les événements, tous les éléments forts qui d'habitude inspirent les démarches du monde, l'égoïsme, l'orgueil, l'intérêt, l'ambition, le prestige, sont volatilisés par l'œuvre de piété du Saint-Esprit, une douceur enjouée et fraternelle qui anime tous les rapports humains. Et vous voyez qu'on peut lire ça sur le visage du pape François. Le don de piété nous donne aussi le sens de la paternité divine. Il nous fait considérer les autres comme des frères, comme des enfants bien-aimés du même Père céleste. Voilà. Quels sont les charismes qui sont enracinés dans le don de piété ? On pourrait nommer la prière en langue, par laquelle nous exprimons à Dieu notre amour, notre louange, dans des mots inexprimables. On pourrait nommer aussi le charisme de service des autres, comme Paul l'énumère en Romains chapitre 12. Par lequel nous faisons nous nous faisons proches de ceux qui sont dans le besoin. Mais autant le don de piété filiale sera développé chez tous les baptisés, autant le charisme de prière en langue ou de service des autres sera donné à l'un ou à l'autre, peut-être pas à tous, de la même façon, du moins aussi développé. Troisième aspect, le don de science. Le don de science, c'est-à-dire voir toute chose en Dieu, voir la réalité selon Dieu, participer au regard de Dieu sur ses œuvres. L'Esprit Saint nous fait participer au regard de Dieu sur ses œuvres. Jadis, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfant de lumière. Voyez toutes choses dans la lumière de Dieu. Ephésiens 5. Donc, par le don de science, l'Esprit Saint nous donne le sens des créatures. C'est en rapport avec l'écologie aussi, ça. Le sens des créatures, en nous apprenant à bien en user, à ne pas nous laisser dominer par elles, à les utiliser comme autant d'échelons pour aller à Dieu, à les respecter aussi. Il nous donne une connaissance des choses créées dans leur rapport avec Dieu. Ce regard n'idéalise rien, ne dramatise pas, il est réaliste. C'est enraciné, c'est concret, c'est un regard sur la création. Au lieu de tout juger de façon humaine, j'acquiers un sens surnaturel des réalités et des situations. Et celui qui est ainsi éclairé reporte son amour du temporel à l'éternel, du visible à l'invisible, du charnel au spirituel, dit saint Augustin. Il s'applique avec soin à se dégager des biens temporels en réfrénant et en affaiblissant la convoitise, pour s'attacher par la charité au bien spirituel. Éminent exercice de carême. L'Esprit Saint, par le don de science, m'aide aussi à découvrir ce que je dois faire et ce que je dois éviter, puisque je vois les réalités avec les yeux de Dieu plus profondément. En ce qui concerne la conduite de ma vie spirituelle, mais ça rejoint le don de conseil qu'on va avoir plutôt vers la fin. Découvrir ce que je dois faire et ce que je dois éviter. Par exemple, saint Paul dit « Tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai tenus pour un désavantage à cause du Christ. Pour lui, j'ai accepté de tout perdre. » Donc, cette juste appréciation des choses créées que nous donne l'Esprit Saint par ce don de science nous permet d'avoir une certaine conduite morale. On peut ainsi saisir l'utilité ou la nocivité des choses qui nous entourent, car il y a quelquefois un abîme entre les vues humaines et la volonté de Dieu. Alors l'Esprit Saint m'éclaire sur ce que Dieu demande, sur ce qu'il réprouve, sur ce que je dois rechercher et ce que je dois fuir. Il me donne le discernement de ce qui est bon ou mauvais par rapport au plan de Dieu sur moi-même, du chemin qui mène à la vie et du chemin qui mène à la perdition, comme il est dit dans le livre du Deutéronome et dans les psaumes. Donc c'est intéressant parce que ce don de science développe le discernement. Il développe le discernement. Comme un expert peut affirmer d'un tableau qu'il est authentique ou bien que c'est un faux, l'Esprit Saint peut nous donner par le don de science d'affirmer sans hésiter que telle personne ou telle action ou telle réalité, telle situation reflète bien la gloire de Dieu tandis que d'autres l'obscurcissent. C'est comme une sorte d'intuition profonde qui nous est donnée vraiment de façon habituelle. On découvre très facilement ce qui s'écarte de la foi. C'est comme un flair, l'âme a le flair de la vérité et rien ne peut l'ébranler. Le flair de la vérité. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc c'est bien son esprit qui agit. Quels sont les charismes enracinés dans le don de science? On peut en citer plusieurs. La parole de connaissance, par laquelle Dieu révèle ce qu'il accomplit dans la vie d'une personne sans qu'on la connaisse. Le discernement charismatique des esprits, hein, une sorte de lumière immédiate sur l'origine d'une réalité spirituelle. qui est donné vraiment de façon forte. La prophétie, parole du Seigneur dans une situation déterminée, pour édifier, pour exhorter, pour enseigner, pour consoler, mais aussi pour enflammer et embraser. L'interprétation d'un message en langue, qui équivaut aussi à une prophétie. Et puis le charisme d'images intérieures. L'Esprit Saint nous fait saisir la vérité des choses, des situations, des personnes, à travers des images, à travers des symboles. Et c'est l'Esprit sous la forme du don de science, à partir du canal du don de science, qui agit par des charismes qui y sont greffés. Voilà, vous comprenez cette perspective d'articulation des dons charismatiques sur les dons sanctifiants et de nécessité impérative de développer les dons sanctifiants, de faire appel à l'Esprit Saint pour son action à travers les dons sanctifiants. Sinon, nous devenons difformes et nous faisons de l'hypercharismatisme, si j'ose dire, comme on fait de l'hypertension. On a situé le Saint-Esprit exclusivement au niveau des charismes. Mais c'est beaucoup plus vaste que cela, et surtout, c'est beaucoup plus équilibré que cela. Et un charisme qui est mal enraciné se met à divaguer, parce qu'il est aux prises avec notre orgueil, notre volonté de puissance, et tout et tout. Il se met à divaguer. Et donc, l'importance de bien enraciner, de bien l'enraciner dans le terreau des dons sanctifiants. Quatrième aspect, la force. Le don de force, c'est-à-dire, on pourrait le résumer ainsi, être énergique dans les difficultés, particulièrement recommandé au tempérament mou, être énergique dans les difficultés. Donc c'est une force surnaturelle, attention, ce n'est pas un courage naturel, c'est une force surnaturelle. Comme Jésus dit à Paul, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. Donc, laissé à lui-même, l'homme est tantôt porté à la faiblesse, à l'abattement, ou tantôt poussé par une ardeur naturelle qui a sa source dans son tempérament ou dans la vanité. Mais la force surnaturelle de l'Esprit-Saint supplée à la faiblesse de la nature en même temps qu'elle corrige la fougue. Important, les deux aspects. Elle supplée à la faiblesse de la nature, mais aussi elle corrige la fougue. Il modèle en nous la peur et tempère la confiance que nous serions portés à mettre en nous-mêmes. Il modèle en nous la peur que nous pourrions avoir de nous-mêmes et tempère la confiance excessive que nous mettons en nous-mêmes. Cette force du Saint-Esprit surnaturel nous est donnée pour vivre toute épreuve. Paul dira « Je peux tout en celui qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13 « Je peux tout ». Et deux tendances caractérisent l'action de l'esprit par le don de force, l'attaque et la défense. Il permet aussi bien de développer l'esprit d'entreprise et d'endurance comme l'esprit de sacrifice qui ne fléchit pas. Cette force de Dieu permet de vivre l'héroïsme de petitesse, la fidélité aux plus humbles tâches de la vie quotidienne. L'héroïsme de la petitesse comme l'héroïsme de la grandeur, les appels exceptionnels qui sont faits à certaines personnes. Et donc on retrouve ce don de force dans la prière de Jésus à Gethsémani, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. » L'Esprit-Saint, par le don de force, soutient la volonté, la rend empressée, efficace, persévérante pour affronter les difficultés et les souffrances, comme cela se produit surtout dans le martyr du sang, mais aussi le martyr du cœur, celui de la maladie, de la faiblesse ou de l'infirmité, disait Jean-Paul II. Je lisais ces jours-ci un tout petit livre qui est fort intéressant du docteur Viktor Frankl, un psychothérapeute autrichien que je vous recommande et qui a fondé une école de psychanalyse qui s'appelle la logothérapie, Viktor Frankl, qui a été déporté à Auschwitz et dans d'autres camps de concentration, qui était déjà psychothérapeute avant sa déportation et qui a écrit juste après un tout petit livre, ça lui est venu en 9 jours, comme une sorte de catharsis, où il raconte son aventure dans les camps de concentration et puis ce qu'il a pu observer des hommes dans des situations totalement limites, évidemment, et comment c'était important pour lui dans sa perspective de logothérapie qui consiste à traiter les gens en leur faisant prendre conscience du sens de leur vie en toutes circonstances. Du sens de la vie en toutes circonstances. Et donc, il met bien en relief comment les hommes, dans des situations effroyables, développent aussi la force. Et comment la force du Saint-Esprit et l'énergie qui vient du Saint-Esprit est sous-jacente à tout ce qu'il a pu écrire dans ce petit livre qui s'appelle « Donner un sens, trouver un sens à la vie dans les épreuves ». La collection « J'ai lu ». Ça coûte 6,50 €, mais c'est vraiment intéressant. Par cette force surnaturelle qui nous est donnée par l'Esprit Saint, on entreprend courageusement ce qui coûte. On surmonte avec sérénité les difficultés, les tentations et les épreuves les plus dures. On entre sans détour et dans le combat spirituel en acceptant de mettre en œuvre les renoncements qui s'imposent. Et on comprend mieux alors les hyperboles de Jésus, hein, « Si ton œil te scandalise et te mène au péché, arrache-le ». Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de borgnes parmi nous, mais c'est une hyperbole pour faire comprendre qu'il faut être quelquefois sans pitié dans le combat spirituel. Et on a besoin pour cela du don de force de l'Esprit-Saint pour nous convertir et retrancher de nos vies tel ou tel péché, tel ou tel consentement que nous donnons aux ténèbres. Le don de force nous permet aussi de témoigner avec assurance. Paul se rendit à la synagogue et pendant 3 mois, il y parla avec assurance. Il entretenait ses auditeurs du royaume de Dieu et cherchait à les persuader. L'Esprit Saint communique à l'homme une véritable puissance intérieure, celle du témoignage libre et authentique, rempli de l'assurance, la parésia en grec, que donne l'Esprit Saint. Il est impossible d'énumérer tout ce à quoi l'Esprit Saint nous dispose par le don de force. Voici quelques exemples à compléter. Le désir de tenir dans le bien envers et contre tout, la régularité dans la vie spirituelle, le courage pour supporter les épreuves jusqu'à l'héroïsme, le zèle généreux et désintéressé au service des autres, l'effort patient pour rassembler au Christ Jésus, etc. etc. Quels sont les charismes qui s'enracinent dans le don de force ? Eh bien, dans le Nouveau Testament, l'assurance du témoignage évangélique est liée à la manifestation des signes de puissance. Et c'est pourquoi on pourrait dire que les dons de guérison, la puissance d'opérer des miracles, le charisme de foi à soulever les montagnes aussi, qui propulse la communauté dans la volonté et le plan de Dieu, précisément quand il paraît vraiment impossible à réaliser, tous ces charismes s'enracine dans le don de force et il contribue à être des outils puissants pour l'évangélisation. Voilà. En revanche, des charismes de puissance qui se mettent à divaguer parce qu'ils ne sont pas assez enracinés dans le don de force, eh bien, ça fait de gros dégâts, évidemment. Quand la personne s'approprie son don de guérison, son don de miracle, son don de foi, et voilà. Cinquième aspect de l'œuvre de l'Esprit Saint, le conseil, c'est-à-dire avoir une direction pour agir. L'Esprit Saint, par ce don de conseil, l'action de conseil de l'Esprit Saint, va m'inspirer le choix des moyens et le chemin à suivre. On pourrait citer ici cette parole de Jésus, « Tout ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Donc l'Esprit Saint va m'inspirer les paroles. Là où la prudence demeurerait hésitante, l'Esprit Saint agit sur notre intelligence pour nous éclairer sur ce que nous devons faire ou éviter, sur ce que nous devons dire ou taire, sur ce que nous pouvons conserver et ce à quoi nous devons renoncer, sur ce qu'il faut entreprendre ou abandonner. Il intervient pour m'assurer de la bonne voie du bon choix à faire. Et il m'évite ainsi de me perdre dans les dédales des discussions interminables et fumeuses, et de commettre aussi certaines graves erreurs. Vous voyez que ça a rapport aussi avec le troisième aspect, la science, le don de science, voir la réalité selon Dieu. L'Esprit Saint nous préserve du danger de nous gouverner nous-mêmes. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Mes voix ne sont pas vos voix. Il nous préserve des pièges et des illusions dans lesquelles nous risquons de tomber en nous gouvernant par nous-mêmes. Sous l'impulsion du don de conseil, nous acceptons volontiers les directives de Dieu qui souvent nous viennent par les autres, en consultant les autres, puis en acceptant d'accomplir ce qui aura été décidé. Cette fidélité à la voix de Dieu à travers les autres est beaucoup plus importante qu'une fidélité à soi-même et à ses projets. Et par notre fidélité à ses inspirations, le Saint-Esprit peut ainsi guider notre agir, être le maître intérieur qui va harmoniser les différents actes de notre vie pour que nous nous identifions de plus en plus à la volonté de Dieu. Sous son impulsion, nous apprenons à agir avec esprit de foi, sans lâcheté, sans caprice, sans précipitation, ni présomption. Mais quelle est la différence alors entre la vertu de prudence et puis le don de conseil ? En fait, la prudence, c'est la raison appliquée à l'agir humain. La vertu de prudence s'exerce au plan des moyens. Elle comporte le jugement sur une situation concrète, mais son acte principal demeure la mise en action des réalisations pratiques. Cette vertu ne consiste pas à peser indéfiniment le pour et le contre, mais lorsque la conscience est suffisamment éclairée, à passer résolument à l'action. En revanche, lorsqu'on est éclairé par l'Esprit Saint dans le don de conseil, on ne se dirige plus par sa propre raison, mais on est dirigé et comme entraîné par son inspiration divine. Cette inspiration n'est pas toujours conforme aux règles ordinaires de la prudence. Vous voyez la distinction ? Car il faut-il le rappeler, l'Esprit Saint est au-dessus de toute règle. Cependant, il fait avancer en sécurité à travers les obscurités de la foi. Quels sont les charismes enracinés dans le don de conseil ? Eh bien, on pourrait dire le charisme de parole de sagesse. C'est-à-dire lorsque l'Esprit Saint nous donne d'un seul coup, comme ça, par une impulsion intérieure, une solution et des lumières à propos de quelque chose qui est débattu dans la communauté chrétienne. J'ai vu ça en œuvre plusieurs fois dans des rassemblements. C'est assez impressionnant. Tout le monde se chamaille, il y a un problème. Et puis d'un seul coup, quelqu'un se lève, donne une lumière par le don de sagesse. Ça crée un accord béton, mieux qu'avec les syndicats, et mieux qu'avec une consultation. Et ça produit un silence. Tout le monde voit que ça vient de Dieu, parole de sagesse. Mais c'est enraciné dans le don de conseil. Parole de connaissance aussi, les images intérieures aussi, quand elles relèvent moins de la prophétie que du discernement. Sixième aspect, le don d'intelligence, qui n'est pas la même chose que le troisième aspect, le don de science. Voir la vérité selon Dieu pour la science, ici l'intelligence, c'est pénétrer la vérité divine. L'Esprit Saint illumine l'esprit sur le sens profond des mystères de la foi, en les lui faisant pénétrer par manière d'intuition. Il nous montre la beauté et l'harmonie, un peu comme la lumière du soleil levant nous permet d'admirer toutes les merveilles de la nature que dérobent à nos yeux les ombres de la nuit. Peut-être que vous avez fait cette expérience, par exemple, devant la doctrine catholique, en rapport dans une perspective écuménique, par exemple. Vous êtes avec des frères orthodoxes, des frères protestants, des frères catholiques, d'autres évangéliques peut-être, et puis vous considérez la doctrine catholique et l'Esprit Saint vous donne conscience de l'harmonie profonde de l'organicité profonde des dogmes catholiques et de la doctrine catholique, comme un tout qui est vraiment très beau, où tout est articulé et se tient. Et comment, dans d'autres cas, on a amputé, effectivement, certaines choses. Eh bien, ça, c'est le don d'intelligence qui agit. Nous comprenons ainsi plus profondément l'Écriture. D'ailleurs, c'est vraiment le signe de l'effusion de l'esprit quand la personne se met à se jeter avec voracité sur sa Bible, attitude nouvelle qu'elle n'avait pas auparavant. Le Saint-Esprit lui donne une compréhension plus profonde de l'Écriture. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures, disent les disciples d'Emmaüs ? Ce don d'intelligence est comme une finesse particulière donnée par l'Esprit pour comprendre la parole de Dieu dans sa profondeur et sa hauteur, dit Jean-Paul II. Un texte d'Évangile, que nous avons lu 100 fois, nous apparaît soudain sous un jour tout à fait nouveau. C'est l'œuvre du don d'intelligence. Il scrute à fond, il dépasse la connaissance de la foi chercheuse, qui croit fermement, mais s'arrête à la superficie, rebutée par la grandeur des choses. C'est toujours la foi, mais illuminée maintenant par l'intelligence de l'Esprit-Saint. Donc, il nous permet d'avoir une foi solide parce que éclairée. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Hébreux 11, 27. Comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. C'était le titre d'un livre du père Jacques Loewe, le fondateur de la mission Pierre et Paul, qui était dominicain de Caire à Marseille. Un très beau livre sur l'évangélisation. La foi est donnée comme à 2 degrés, selon qu'elle s'exerce ou non, sous l'influence du don d'intelligence. Ce qui est accru d'un degré à l'autre, ce n'est pas l'adhésion proprement dite, mais c'est la pénétration d'esprit dans la révélation au moyen d'une plus forte illumination. Ce don délivre l'esprit des fluctuations qui accompagnent la foi toute seule, et il procure à notre âme une certitude particulière et un certain repos dans les mystères de la foi. Quels sont les charismes enracinés dans ce don d'intelligence ? Eh bien, le charisme d'enseignement qui donne naissance au ministère de docteur, le charisme d'exhortation, qui est une forme de commentaire de la parole, inspirée par l'Esprit, et aussi les charismes de prophétie, d'interprétation des langues, d'images intérieures, qui peuvent s'enraciner dans le don d'intelligence quand elles ont trait à des aspects plus doctrinaux. Et enfin, 7e aspect du don de l'Esprit, pour terminer, la sagesse. Mais c'est pas ce que vous pensez, parce que le mot sagesse vient du latin sapere, qui veut dire non pas saper, mais goûter. Sapere, qui veut dire goûter, savourer. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Donc le don de sagesse, ça va permettre de goûter la présence de Dieu, de savourer. L'Esprit Saint nous fait goûter le plan de Dieu, savourer le plan de Dieu qui se manifeste dans le Christ. C'est une sorte d'expérience des choses divines par voie d'amour. Dans le plus intime de son cœur, on goûte Dieu. L'Esprit Saint nous fait reconnaître et goûter la présence aimante, amoureuse du Créateur dans la moindre de ses créatures. Il nous procure une lumière qui éclaire notre intelligence pour ramener toutes choses à Dieu comme à leur fin. Donc ça pousse à la louange. Le don de sagesse va nous pousser à la louange, à l'adoration. Et vous allez avoir cette exclamation de Paul en Romains chapitre 11. « Ô abîme de la richesse, de la science, de la sagesse et de la science de Dieu !» Par le don de sagesse, l'Esprit Saint nous fait réaliser la parfaite compréhension de tous les mystères de Dieu et de l'univers. Nous participons au maximum à l'ampleur, à la profondeur, à l'unité du regard de Dieu. C'est le don contemplatif par excellence. Il donne une certitude mystique et affective fondée sur le goût de Dieu. Non pas un goût affectivo-gélatineux qui fait chaud à cœur, mais un goût profondément surnaturel. L'Esprit Saint nous mène à une adoration profonde de Dieu. On savoure en l'expérimentant la grandeur divine et on s'y abandonne en pleine sérénité dans la paix. C'est Dieu qui dirige tout dans un ordre parfait. Donc ça nous mène à plus d'abandon. Père, que ta volonté soit faite. Ou encore cette prière de Jésus, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Jésus goûtait la profonde révélation du Père dans des situations qui, lorsque vous ouvrez cette page de l'Évangile, étaient des situations d'échec de la prédication de Jésus. Il goûtait vraiment l'œuvre de Dieu qui était présente dans cet événement. L'Esprit Saint donne de demeurer toujours calme et paisible, avec la certitude que Dieu ne change pas, qu'il fait tout parfaitement, et qu'il ne permet le mal que pour un plus grand bien, pour celui qui veut bien profiter de sa grâce et du sens ainsi qu'on peut placer sur l'épreuve qui est présente en nos vies. La sagesse fait goûter Dieu en toutes ses œuvres, toutes les dispositions de sa providence. L'Esprit Saint nous donne d'habiter les croix de notre quotidien parce qu'on y découvre comment suivre Jésus au plus près. Il nous montre que la vérité de Dieu se révèle aux petits, tandis que les hommes sûrs de leur expérience et de leur savoir, ce qu'on peut appeler la sagesse humaine, ces personnes-là ne peuvent recevoir la sagesse divine, le don qui permet de goûter l'œuvre de Dieu. Je vous ai mis pour terminer quelques prières à l'Esprit Saint dont vous pourrez faire profit. Vous avez une très courte qui est du vénérable François-Marie Liberman, qui a écrit des livres sur l'Esprit Saint. Ô très saint et très adorable Esprit, faites-moi entendre votre douce et aimable voix. Je veux être devant vous comme une plume légère, afin que votre souffle m'emporte où il veut et que je ne lui oppose jamais la moindre résistance. Vous avez cette prière du cardinal Verdier, archevêque de Paris, mort en 1940. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire, la liste est longue, pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. Très, très, très belle prière. Elle est courte, mais elle est puissante, profonde. Vous avez cet acte de consécration à l'Esprit Saint. Je ne sais pas où je l'ai pris, sur Internet quelque part, mais dont vous pourrez tirer profit aussi. Et puis, vous avez cette prière du cardinal Mercier, qui était archevêque de Malines-Bruxelles et qui est mort en 1926. Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore, éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi, dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres, je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qui m'arrive, faites-moi seulement connaître votre volonté. Et puis un dernier mot pour dire que j'ai réalisé cette année un jeu des sept familles pour les enfants du catéchisme, le jeu des sept dons du Saint-Esprit. Vous pouvez le télécharger sur le site de la paroisse saintaubin.fr. Alors pour les parents, mais pour les grands-parents, notamment en période de vacances, ça peut vous donner de passer un temps important de catéchèse avec vos enfants, de jouer au jeu des sept dons du Saint-Esprit. C'est un jeu de sept familles. Oui. Donc vous pouvez le télécharger, vous le découpez, et puis... voilà. Donc comprenez bien ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, c'était un petit peu en arrière des charismes pour montrer la nécessité de leur implantation dans cet humus des sept dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire ces sept entonnoirs, ces sept antennes, cet organisme spirituel qui nous est donné au baptême et à la confirmation et par lequel l'Esprit Saint va agir puissamment en nous pour nous sanctifier et nous transformer, et que nous avons vraiment la nécessité de cette profonde sanctification, sans quoi les charismes risquent de déraper. On va chanter, hein, sûrement. Ah oui, il faudrait se réchauffer, hein, ça ferait du bien.
Un petit quart d'heure de
la 203, on va chanter un canon.